Il pensa plus tard que les gens, dans leur inaltérable perversité, transformeraient ce qu'il fit ensuite en acte d'héroïsme. Et lui les laisserait probablement dire, alors qu'en fait, il ne s'agissait à ses yeux que d'une ultime tentative désespérée d'auto-préservation. Très vaguement, il eut l'impression d'entendre un commentateur sportif pris d'un délire d'enthousiasme. Howard Cosell, ou Warner Wolf, ou encore peut-être le plus fou de tous, Johnny Most, décrire la scène comme si ses efforts pour arriver jusqu'à la réserve de médicaments avant que la douleur ne l'achevât avaient été quelques bizarres événements sportifs. Interville revu et corrigé par Caligula, par exemple. Comment appeler cette épreuve? La course à la came? L'énergie qui arrive à déployer Paul Sheldon aujourd'hui, c'est à ne pas y croire, s'enthousiasmait le commentateur dans la tête de Paul. Personne dans le stade Annie Wilkes ou parmi les téléspectateurs n'aurait osé imaginer qu'il avait la moindre chance de faire bouger ce fauteuil roulant après le coup qu'il a reçu. Mais je crois, oui, ça y est, il bouge. Regardons le ralenti. La sueur qui coulait sur son front vint lui piquer les yeux. Sur ses lèvres, il lécha un mélange de sel et de larmes. Son tremblement n'arrivait pas à s'arrêter. La douleur était comme la fin du monde. Il pensa, il arrive un moment où parler de la douleur est inutile. Personne ne peut savoir qu'il existe une telle souffrance dans le monde. Personne. C'est comme être possédé par des démons. C'est seulement la pensée du Novril, de ces gélules qu'elle conservait quelque part dans la maison, qui lui donna la force de continuer. Le fait que la chambre fût fermée, la possibilité que la drogue ne se trouvât pas au rez-de-chaussée, comme il le supposait, mais cachée ailleurs. Le risque de la voir revenir et d'être pris sur le fait. Rien de tout cela n'avait d'importance. Ce n'était que des ombres au regard de la douleur. Il réglerait chacun de ses problèmes quand il se présenterait. Ou bien il mourrait. C'était tout. Le fait de se déplacer fit que les rubans de feu qui partaient de sa taille et s'enroulaient autour de ses jambes s'enfoncèrent plus profondément, s'incrustant dans sa chair comme des anneaux de fer bardés de pointes aiguës et chauffés à blanc à l'intérieur. Mais le fauteuil bougea. Très lentement, le fauteuil se mit à rouler. Il avait réussi à parcourir un peu plus d'un mètre lorsqu'il se rendit compte qu'il allait se retrouver dans un coin de la chambre et non devant la porte, s'il n'arrivait pas à faire pivoter le fauteuil. Parcouru de frissons, il étreignit la roue droite. Pense aux gélules. Pense au soulagement qu'elles vont apporter. Et pesa dessus de toutes ses forces. Le caoutchouc émit un couinement minuscule contre le bois du plancher. Un vrai cri de souris. Il pesa de nouveau sur la roue. Sa musculature, autrefois solide, maintenant réduite à une gelée tremblotante, les lèvres découvrant ses dents qui grinçaient. Le fauteuil pivota légèrement. Il attrapa alors les deux roues et le fit de nouveau avancer. Cette fois, il parcourut 1,50 m avant de s'arrêter pour se redresser. Cela accompli, il s'évanouit. Il revint paresseusement à la réalité 5 minutes plus tard, au son de la voix lointaine et provocante du commentateur sportif dans sa tête. Il essaye de repartir. L'énergie de ce Paul Sheldon n'est vraiment pas croyable. Au premier rang de son esprit, il n'y avait que la douleur. C'est du fond de sa tête qu'il commandait ses yeux. C'est alors qu'il les vit auprès de la porte et qu'il roula dans leur direction. Il s'abaissa pour en prendre une. Mais ses doigts s'arrêtèrent à 10 centimètres du sol, à 10 centimètres de l'une des 2 ou 3 épingles tombées des cheveux d'Annie pendant qu'elle le chargeait. Il se mordit la lèvre. Ne prêtant pas la moindre attention à la transpiration qui coulait de sa figure et de son cou et venait mouiller son pyjama. « Je ne le crois pas capable d'atteindre ces épingles, les gars. C'est un effort absolument fantastique, mais j'ai bien peur qu'il ne puisse aller plus loin. » Eh bien, peut-être pas. Il laissa son buste retomber sur le côté droit du fauteuil roulant, s'efforçant tout d'abord d'ignorer la douleur, une douleur qui crée une sensation de pression grandissante comme une inclusion de dents. Puis il renonça et cria. Comme elle disait, il n'y avait personne pour l'entendre. Le bout de ses doigts pendait encore à 1 ou 2 centimètres au-dessus du sol et se balançait juste à l'aplomb de l'épingle. Sa hanche droite lui donnait l'impression qu'elle allait exploser comme un furoncle plein de gelée d'os. « Oh mon Dieu, je vous en prie, aidez-moi !» Il se tassa encore plus sur le côté en dépit de la douleur. Ses doigts effleurèrent l'épingle, mais ne réussirent qu'à la déplacer de quelques centimètres. Paul se laissa alors glisser dans le fauteuil, toujours penché sur le côté droit, et criant encore sous l'impact de l'éclair qui monta de ses jambes. Il avait les yeux exorbités, la bouche ouverte, sa langue pendante entre les dents, comme un chien en été. Du bout tombaient de petites gouttes de salive qui allaient étoiler le sol. Il pinça l'épingle entre ses doigts, serra, faillit la perdre. Puis, elle se retrouva dans son poing fermé. Le fait de se redresser déclencha une nouvelle onde de souffrance. Et une fois cela accompli, il ne put que rester comme il était et souffler pendant un moment, haletant, la tête rejetée aussi en arrière que le permettait le dossier du fauteuil, l'épingle posée sur la planche restée en travers des bras du siège. Il crut un moment qu'il allait vomir. Puis l'impression passa. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» le réprimanda mollement une partie de son esprit au bout d'un moment. « Attends-tu que la douleur s'en aille d'elle-même ? Faut pas y compter. Elle n'arrête pas de citer sa mère. Mais la tienne avait son propre assortiment de dictons, non ? Exact. Assis ici, la tête renversée en arrière, le visage brillant de sueur, les cheveux collés sur le front, Paul en récita un à voix haute, presque comme une incantation. Il y a peut-être des fées, il y a peut-être des lutins, mais que Dieu vienne en aide à ceux qui cèdent eux-mêmes. Ouais. Alors finis de traîner, mon petit Paul. La seule fée qui va montrer le bout de son nez ici appartient à la catégorie poids lourd et s'appelle Annie Wilkes. Il reprit donc sa progression, faisant rouler lentement le fauteuil jusqu'à la porte. Elle l'avait fermée à clé, mais il se croyait capable de la déverrouiller. Tony Bonassaro, réduit maintenant à un tas de cendres noires, avait été voleur de voitures. Dans le cadre du travail préparatoire de Fast Cars, Paul avait étudié l'art de forcer les portes avec un ancien flic du genre coriace, Tom Twyford. Tom lui avait montré comment faire un branchement sauvage sur le contact, comment se servir de ces minces tiges de métal que les voleurs de voitures appellent « Slim Jims » pour forcer une serrure de portière, comment court-circuiter un signal d'alarme. Ou bien, lui avait dit Tom un jour de printemps à New York 2 ans auparavant, « Disons que vous ne voulez pas voler de voiture. Vous en avez une, mais vous êtes presque à sec. Vous avez un tuyau, mais la bagnole que vous avez choisie pour vous servir gracieusement possède un bouchon de réservoir à serrure. Est-ce un problème ? Pas du tout. Si vous savez y faire, parce que la plupart de ces serrures sont des jeux d'enfants à ouvrir. Il suffit d'avoir une épingle à cheveux. » Il fallut à Paul 5 interminables minutes pour placer le fauteuil roulant exactement là où il le voulait, la roue gauche touchant presque la porte. Le trou de serrure était à l'ancienne mode et rappela à Paul les dessins de John Tenniel pour Alice au Pays des Merveilles, placé comme il était au milieu d'une plaque ternie. Il se baissa légèrement dans le fauteuil, ce qui lui arracha un unique jappement, et regarda à travers. Il vit un petit couloir qui conduisait à ce qui était manifestement le salon. Tapis rouge foncé sur le sol, canapé démodé couvert d'un tissu assorti, lampadaire avec abat-jour à gland. Sur la gauche, à mi-chemin du couloir, il aperçut une porte entrouverte. Paul sentit son pouls s'accélérer. Il devait très probablement s'agir de la salle de bain du rez-de-chaussée. Il l'avait suffisamment entendu qui y prenait de l'eau, y compris le jour où elle avait rempli le seau dans lequel il avait bu avec l'enthousiasme que l'on sait. Mais n'était-ce pas aussi d'ici qu'elle venait lorsqu'elle lui apportait ses médicaments? Il lui semblait que oui. Il saisit l'épingle, mal. Elle retomba sur la planche et se mit à glisser vers le bord. « Non !» cria-t-il d'une voix rauque. la plaquant de la main au dernier moment. Il la serra dans son poing et s'évanouit une deuxième fois. Bien que n'ayant aucun moyen d'en être sûr, il lui sembla qu'il était resté inconscient plus longtemps ce coup-ci. La douleur, mis à part les effroyables élancements brûlants qui montaient de son genou gauche, paraissait avoir un peu diminué. L'épingle était posée au milieu de la planche. Cette fois-ci, il fit jouer à plusieurs reprises les doigts de sa main droite avant de la ramasser. Maintenant, se dit-il tout en la dépliant, il ne s'agit plus de trembler. Accroche-toi à cette idée. Tu ne trembleras pas. Il passa le bras devant lui et glissa l'épingle dans le trou de serrure, écoutant le commentateur sportif dans sa tête, si vive, décrire l'action. Une sueur huileuse lui courait continuellement sur le visage. Il tendit l'oreille. Mais surtout, il écouta ce que lui disait le bout de ses doigts. Dans une serrure de pacotille, lui avait dit Tom Twyford. Le boutoir est juste un bout de ferraille qui oscille comme un rocking chair. Vous voulez retourner un rocking chair? Rien de plus facile. On le prend aux pattes et hop, de la gnognotte. Avec une serrure comme ça, c'est tout ce qu'il y a à faire. On relève le butoir et on dégage rapidement le pen avant qu'il retombe. Il atteignit le butoir à deux reprises, mais à chaque fois l'épingle glissa dessus et il se referma avant que Paul ait pu faire bouger le pen. L'épingle commençait à se plier. Encore deux ou trois essais et elle va casser, pensa-t-il. Mon Dieu, je vous en prie, dit-il, en l'introduisant à nouveau. Mon Dieu, qu'est-ce que vous en dites? Rien qu'un petit geste pour le môme, c'est tout ce que je demande. Les gars, Sheldon s'est montré héroïque aujourd'hui. Mais ce sera là sa dernière tentative. La foule retient sa respiration. Il ferma les yeux. Et la voix du commentateur s'estompa comme il tendait avidement l'oreille vers le chuchotement de l'épingle dans la serrure. Maintenant. Ça résistait bien. Le butoir. Il l'imaginait dans son logement, incurvé contre le pied d'un rocking chair, s'appuyant contre le pen et le clouant sur place, le clouant, lui, sur place. C'est un simple jeu d'enfant, Paul. Suffit de rester calme. Lorsque l'on souffre aussi horriblement, ce n'est pas facile de rester calme. Il saisit la poignée de la main gauche, passant pour cela sous son bras droit, et commença à enfoncer délicatement l'épingle. Il appuya un peu plus fort, encore un peu. Il imaginait le mouvement du butoir dans sa petite alcôve poussiéreuse. Il voyait le pen qui commençait à se rétracter. Inutile de le faire complètement rentrer, bon Dieu, inutile, inutile de basculer complètement le rocking chair pour reprendre la métaphore de Tom Twyford. Dès l'instant où il quittait la gâche de l'encadrement, une poussée. L'épingle se mit simultanément à plier, à glisser. Il sentit ce qui se passait et, désespéré, poussa vers le haut tant qu'il put en enfonçant la porte. Il y eut un claquement et l'épingle se brisa en deux. La partie à l'intérieur tomba dans la serrure et pendant quelques instants sinistres, il se dit qu'il avait échoué. Puis il vit que la porte s'ouvrait lentement, le pen dépassant de la platine comme un doigt d'acier. « Seigneur Jésus, merci. Merci Jésus, murmura-t-il. « Revenons sur le ralenti !» exulta Warner Wolf dans sa tête, tandis que les dizaines de milliers de spectateurs du stade Annie Wilkes, sans parler de ceux qui étaient chez eux devant leur téléviseur, applaudissaient et criaient à tout rompre. « Pas encore, Warner, » grogna-t-il. Sur quoi il s'attela à la longue et épuisante tâche, consistant à manœuvrer le fauteuil de façon à le placer dans l'encadrement de la porte. Il eut un mauvais moment. Non, pis que cela. Affreux, horrible. Quand il se rendit compte que le fauteuil ne passait pas. Il n'avait que 5 centimètres de trop, mais c'était 5 centimètres de trop. L'âme n'est repliée. C'est pour ça que j'ai tout d'abord pensé à un caddie. L'informa froidement sa mémoire. Finalement, il réussit à forcer le passage, difficilement, en se plaçant au milieu de l'encadrement. Il se pencha en avant, saisit les montants et tira de toutes ses forces. Les bouchons qui coiffaient l'axe des roues grincèrent contre le bois, mais il passa. Après quoi, il s'évanouit une fois de plus. La voix d'Annie le tira de sa torpeur. Il ouvrit les yeux et vit qu'elle pointait un fusil de chasse sur lui. La fureur faisait briller ses yeux, des bulles de salive crevaient entre ses dents. « Puisque vous tenez tant que ça à votre liberté, Paul, lui dit-elle, je vais avoir la joie de vous l'accorder. » Elle releva les deux percuteurs. Il sursauta dans l'attente de la double détonation. Mais il n'y en eut pas, bien entendu. Il s'était déjà rendu compte qu'il rêvait. Non, ce n'était pas un rêve, mais un avertissement. Elle pouvait revenir n'importe quand, absolument n'importe quand. La qualité de la lumière que laissait passer la porte de la salle de bain avait changé. Elle brillait davantage. La clarté de midi, aurait-on dit, si seulement l'horloge avait sonné, pour lui indiquer s'il avait ou non raison. Mais elle restait obstinément silencieuse. Elle est restée partie plus de 50 heures l'autre jour. Plus de 50 heures. Pourquoi pas 80 cette fois-ci? Tout comme la Cherokee peut arriver dans 5 secondes. Au cas où tu l'ignorerais, mon ami, la météo peut lancer des avis de tornade. Mais quant à dire où et quand elles frapperont, ils n'en savent foutrement rien. « Très juste, » dit-il à voix haute, poussant le fauteuil roulant en direction de la salle de bain. De la porte, il vit une pièce austère avec un sol au carrelage hexagonal blanc. Une baignoire se dressait sur ses pieds à griffes, un éventail de rouille sous chacun des robinets. Un placard à linge se trouvait à côté, en face un lavabo. Au-dessus du lavabo, une armoire à pharmacie. Elle avait laissé le seau dans la baignoire. Il en apercevait le haut en plastique. Le couloir était assez large pour qu'il pût faire pivoter le fauteuil, mais l'épuisement faisait trembler ses bras. Enfant chétif, il avait fait un effort pour prendre raisonnablement soin de son corps une fois adulte. Mais ses muscles étaient maintenant ceux d'un infirme, et l'enfant chétif était de retour, comme si tout le temps passé à courir, à faire des pompes et à ramer sur son Nautilus n'avait été qu'un rêve. Au moins, cette porte-ci était-elle plus large? Pas beaucoup, mais suffisamment pour faire de son passage autre chose qu'une épreuve, à en avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. Paul heurta l'un des jambages, puis les roues de caoutchouc roulèrent en douceur sur le carreau. Une odeur âcre lui parvint, qu'il associa automatiquement à l'idée d'hôpital. Odeur de l'isole, peut-être. Il n'y avait pas de toilette dans cette salle de bain, ce dont il se doutait déjà. Les seuls bruits de chasse d'eau provenaient du premier, et maintenant qu'il y pensait, il y en avait toujours un qui suivait quand il s'était servi du bassin. Il n'y avait ici que la baignoire, le lavabo et le placard, dont la porte était ouverte. Il jeta un bref coup d'œil aux piles proprement rangées de serviettes bleues. Il les connaissait bien puisqu'elle le séchait avec après l'avoir lavé à l'éponge. Et tourna son attention vers l'armoire à pharmacie au-dessus du lavabo. Elle était hors de portée. Il pouvait s'étirer tant qu'il voulait, il lui manquait 20 bons centimètres pour l'atteindre. Il s'en rendait parfaitement compte, ce qui ne l'empêcha pas néanmoins d'essayer, incapable qu'il était de croire que le destin ou Dieu, ou quoi que ce fût de ce genre, pût être aussi cruel. Il avait l'air d'un joueur de baseball courant après une balle longue qu'il sait n'avoir aucune chance d'attraper. Paul émit un gémissement de bête blessée, baissa les bras et se laissa aller haletant dans le fauteuil. Le nuage de la torpeur se reforma. Dans un effort de volonté, il le chassa et regarda autour de lui, cherchant quelque chose qui l'aiderait à ouvrir la porte de l'armoire à pharmacie. C'est alors qu'il aperçut le balai Ocedar, avec son long manche bleu posé, raide, dans un coin. Tu vas te servir de ça? Vraiment? Au fond, pourquoi pas, hein? Il suffit de forcer la porte de l'armoire à pharmacie et de faire dégringoler tout le bazar dans le lavabo. Mais les flacons vont se briser. Et même s'il n'y a pas de flacon de verre, ça m'étonnerait, tout le monde a de la listerine ou du scop ou un truc comme ça chez soi, tu n'auras aucun moyen de tout remettre en place. Et qu'est-ce qui se passera quand elle reviendra et verra tout se gâcher? Je lui dirai que c'était misérie, coinça-t-il. Je lui dirai qu'elle s'est arrêtée en passant pour prendre un tonique à réveiller les morts. Sur quoi il éclata en sanglots. Mais même à travers ses larmes, il avait les yeux qui furetaient dans la pièce, à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, une inspiration, de quoi souffler, juste de quoi Il explorait de nouveau le placard et sa respiration haletante s'arrêta soudain, tandis que ses yeux s'agrandissaient. La première fois qu'il l'avait inspecté, vaguement, il n'avait fait attention qu'aux étagères avec leur empilement au carré de draps, de thé d'oreiller et de serviettes. C'était maintenant le sol qu'il examinait, sol sur lequel s'entassaient un certain nombre de cartons. Certains portaient l'étiquette « Lily », d'autres « Upjohn », d'autres encore « Cam », « Pharmaceuticals ». Il fit brutalement pivoter le fauteuil, se faisant mal et ne s'en souciant guère. Je vous en prie, mon Dieu, faites que ce ne soit pas sa réserve de shampoing ou de serviettes périodiques, ou les photos de sa chère sainte mère, ou... Il agrippa maladroitement l'une des boîtes, la tira à l'extérieur du placard et releva les battants. Pas de shampoing. Pas d'échantillon de produits de beauté. Loin de là. Il y avait un fouillis inextricable de médicaments, la plupart dans des emballages de petite taille, marqués échantillons. Au fond, des pilules, des gélules, de différentes couleurs, tombaient là. Il connaissait certains produits, comme le Motrim et le Lopressor, des médicaments contre l'hypertension que son père avait pris pendant les 3 dernières années de sa vie. Il y en avait d'autres dont il n'avait jamais entendu parler. « Novril, » murmura-t-il, fouillant furieusement au milieu des boîtes, tandis que la sueur l'inondait et que les élancements de ses jambes devenaient plus violents. « Le Novril, où est ce putain de Novril ?»« Pas de Novril. » Il remit en place les rabats et repoussa le carton dans le placard, sans chercher vraiment à le placer exactement comme il l'avait trouvé. Ça devait aller, le coin était aussi bien rangé qu'une poubelle. Se penchant loin sur la gauche, il arriva à s'emparer d'un deuxième carton. Il l'ouvrit et tout d'abord n'en crut pas ses yeux. Darvon, Darvoxette, Darvon, composé, morphose, morphose, complexe, librium, valium et novril. Des douzaines et des douzaines de boîtes échantillons. Délicieuses boîtes, chères boîtes. Oh, délicieuses, chères et saintes boîtes. Il en ouvrit une en la déchirant d'un coup de griffe et vit les gélules qu'elle lui donnait toutes les 6 heures, bien rangées dans leur conditionnement transparent. « À n'utiliser que sur prescription médicale », lisait-on sur l'emballage. « Oh, Seigneur Jésus, le toubib est arrivé », sanglota Paul. Il déchira la cellophane avec les dents et mâcha 3 gélules, à peine conscient de leur goût abominablement amer. Il s'arrêta, regarda les 5 qui restaient dans l'emballage mutilé et en avala une 4e. Il abaissa vivement les yeux, le menton sur le sternum, une expression où se mêlaient la peur et la ruse dans le regard. Il avait beau savoir qu'il était encore trop tôt pour éprouver le moindre soulagement, il en ressentait cependant un, comme si détenir les gélules avait été plus important que de les avaler. Impression d'avoir pris le contrôle de la lune et des marées. De n'avoir eu qu'à tendre la main pour cela. C'était une idée énorme, prodigieuse, mais aussi effrayante, recouvrant un sentiment de culpabilité, d'acte blasphématoire. Si jamais elle débarque maintenant. D'accord, d'accord. Message reçu. Il regarda dans le carton, essayant de calculer combien de boîtes d'échantillons il pourrait dérober, sans qu'elle s'aperçût qu'une petite souris du nom de Paul Sheldon avait grignoté une partie de ses réserves. Cette idée le fit rire, d'un rire aigu, soulagé, et il comprit que le médicament n'agissait pas que sur ses jambes. Il venait de prendre sa dose, si l'on ne craignait pas cette précision vulgaire. « Bouge-toi le cul, idiot ! Pas le temps de se mettre à jouir de cette euphorie !» Il prit 5 boîtes, soit 30 gélules en tout. Il dut se retenir pour ne pas en emporter davantage. Il remit en désordre celles qui restaient au milieu des autres médicaments, dans l'espoir que le résultat aurait le même aspect pêle-mêle qu'avant. Il replia les rabats et glissa le carton dans le placard à linge. Une voiture se rapprochait. Il se redressa, les yeux exorbités. Ses mains tombèrent sur les bras du fauteuil auquel elles s'accrochèrent dans une étreinte pleine de panique. Si c'était Annie, il était baisé et c'était foutu pour lui. Jamais il n'aurait le temps de manœuvrer cette espèce d'engin encombrant et trop grand jusque dans la chambre. Peut-être aurait-il celui de l'assommer d'un coup de manche, d'eau cédar ou de n'importe quoi avant qu'elle lui torde le cou comme un poulet. Il resta assis dans le fauteuil roulant, les échantillons de Novril sur les genoux, ses jambes brisées, raides et droites devant lui, et attendit que le véhicule passât ou s'arrêta. Le grondement du moteur s'enfla, ça n'en finissait pas. Puis, commença à diminuer. « Bon, d'accord. As-tu besoin d'un avertissement plus explicite, mon chou ?»« Évidemment que non. » Il jeta un dernier coup d'œil sur les cartons. Ils avaient l'air d'être placés comme il les avait vus pour la première fois. Il les avait néanmoins aperçus à travers le brouillard de la souffrance. Il ne pouvait en être entièrement sûr. Mais il savait aussi que le désordre dans lequel ils étaient empilés n'était peut-être qu'apparent. Elle présentait cette conscience renforcée des choses de certains psychotiques. Et il se pouvait très bien qu'elle eût soigneusement mémorisé la position de chacun. Il lui suffirait peut-être d'un simple coup d'œil pour comprendre, à sa façon tordue, tout ce qui s'était passé. Le savoir lui inspirait non pas de la terreur, mais de la résignation. Il avait eu besoin des médicaments, et il s'était arrangé pour s'évader de sa chambre et se les procurer. S'il devait y avoir des conséquences, une punition, il pouvait y faire face en se disant qu'il n'avait pas eu le choix. Et de tout ce qu'elle lui avait fait, cette résignation était certainement le pire symptôme. Elle l'avait transformé en une bête percluse de souffrance et dépouillée de toute option morale. Il fit lentement rouler le fauteuil en marche arrière dans la salle de bain, jetant des coups d'œil derrière lui pour s'assurer qu'il ne déviait pas de son chemin. Avant, un tel geste lui aurait arraché des cris de douleur. Mais la douleur avait maintenant disparu sous une superbe façade lisse.